France Culture.
Le journal est signé Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. L'Assemblée nationale est plongée depuis cet après-midi dans la partie recettes du budget 2026. Le compromis, c'est la noblesse du débat démocratique annoncé en ouverture de séance. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, qu'en pensent les députés ? Dans un instant, nous irons prendre la température du Palais Bourbon avec Jeanne Serrin en direct sur place. Frapper la Russie plus fort et plus loin, les missiles longue portée au centre des discussions de la coalition des volontaires, les alliés de l'Ukraine, réunis à Londres cet après-midi. Le président ukrainien Zelensky espère repartir avec un arsenal bien fourni. Des Français aux côtés des Américains au centre de coordination civile et militaire installé près de Gaza pour planifier et organiser l'après-guerre. C'est une information exclusive France Culture. Nous rejoindrons à Jérusalem Thibault Lefebvre, qui a pu consulter un document confidentiel. Et puis les négociations commerciales entre Canada et États-Unis sabrées par un clip vidéo. On y voit l'ancien président américain Ronald Reagan s'exprimer contre la hausse des droits de douane, clip diffusé dans la province canadienne de l'Ontario et qui a provoqué la colère de Donald Trump, qui a brutalement interrompu les négociations commerciales entre les deux pays. C'est à 15h cet après-midi que les députés ont attaqué le gros morceau, le budget 2026 côté recettes. Après son rejet en commission des finances, c'est sa mouture initiale qui est à l'ordre du jour. Dans un hémicycle survolté entre volonté de taxer les riches et les super-riches côté gauche et une droite qui ne veut surtout pas entendre parler de ce genre de mesures. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de l'Assemblée nationale, et avant même que les uns et les autres montent au créneau, c'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a ouvert le bal.
Oui, fait inhabituel dans ces séquences budgétaires, le Premier ministre est monté à la tribune en ouverture des débats et il a plaidé pour une nouvelle méthode.
Notre histoire parlementaire a été faite de rapports de force. Il est temps qu'elle devienne celle du compromis. On ne peut plus gouverner par la seule discipline d'un camp, mais par la culture d'un débat exigeant entre parlementaires portant au départ des convictions différentes. C'est une révolution tranquille du Parlement, celle qui consiste à ne pas demander à l'autre d'appliquer l'intégralité de son propre programme comme s'il avait seul la majorité.
Top départ donc pour ce marathon budgétaire. Les députés ont 7 jours pour examiner près de 3700 amendements avant le vote solennel sur le volet recettes prévu le 4 novembre. Et dès ce soir, des points brûlants à discuter comme le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Des débats qui s'annoncent houleux car sans utilisation du 49.3, les cartes sont rebattues. Cet après-midi, Sébastien Lecornu s'est dit prêt à ce que le gouvernement amende sa propre copie. Pas de tabou, notamment sur la justice fiscale, une manière de montrer patte blanche au PS. Alors que les socialistes ont remis la pression ce matin sur le Premier ministre, si pas d'avancée majeure sur la justice fiscale avant lundi, ils n'hésiteront pas à le censurer. Avertissement lancé par Boris Vallaud et Olivier Faure. Le PS bombe le torse, mais en coulisses, les négociations patinent. Ce matin, une réunion à l'initiative des socialistes s'est tenue avec les présidents de groupe Ensemble pour la République, du Modem et d'Horizon, pour tenter de définir des lignes communes. Sans grande réussite pour l'heure, car si le groupe de Gabriel Attal dit n'avoir aucune ligne rouge, il renvoie le PS au Premier ministre. C'est avec lui qu'il faut négocier, confie un député EPR présent à cette réunion à Sébastien Lecornu de mettre sur la table des mesures claires derrière lesquelles on pourra s'aligner. Des mesures claires à condition, ajoute-t-il, qu'elles ne mettent pas en péril ni l'attractivité de la France, ni la soutenabilité du pays. Les amendements du PS sur la justice fiscale seront débattus dès demain matin dans l'hémicycle.
Jeanne Serrin en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Maël Larfassor. Des discussions budgétaires également scrutées par les agences de notation. La France accumule, vous le savez, les mauvaises notes depuis quelques jours. Après ses trois principales concurrentes qui l'ont déjà abaissée d'un cran, l'agence de notation Moody's devrait à son tour se prononcer pour une rétrogradation ce soir, car l'agence, qui s'intéresse d'abord à la trajectoire de la dette française, ne peut pas être assuré par le projet de loi de finances en ce moment en discussion à l'Assemblée. C'est l'avis d'Éric Dor, professeur d'économie à l'IESSEG.
Même si, par extraordinaire, le Parlement pouvait voter un budget 2026
qui soit aussi ambitieux que ce que le gouvernement Le Cornu propose en termes de limitation du déficit budgétaire à 4,7% du PIB en 2026, eh bien, on se rend compte que ce serait essentiellement par des mesures qui sont ponctuelles. On vous parle de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus, on vous parle d'une surtaxe temporaire sur les bénéfices des très grosses entreprises, on vous parle de ne pas indexer sur l'inflation telle ou telle prestation, mais c'est pour 2026. Ce ne sont pas des mesures qui sont structurelles pour toutes les années ultérieures. Donc tout ça reste encore à faire et il est à craindre que, vu l'instabilité politique, jusqu'à la prochaine présidentielle en tout cas, et ça va être très difficile de faire passer des réformes vraiment structurelles. D'ailleurs, ce qui arrive avec la réforme des retraites en est un exemple. Donc pour le moment, la France est un peu bloquée, elle n'arrive pas à définir une politique économique et sociale de long terme qui permette vraiment d'infléchir la trajectoire de la dette publique dans l'avenir.
Éric Dor, professeur d'économie à l'IESSEG, répondait à Marie Viennot. Au lendemain de sa condamnation pour pratiques commerciales trompeuses, Total Energy annonce qu'il ne fera pas appel. Le groupe pétrolier a été condamné hier par le tribunal judiciaire de Paris à verser 8000 euros d'amende à trois ONG liées à une campagne de communication datant de 2021 sur ses engagements climatiques. Condamnation pour allégations trompeuses au sujet de l'ambition de neutralité carbone de Total Energy. Faites des enfants ou pas, alors que la natalité continue de baisser en 2025 avec une baisse de 2,1% des naissances par rapport à l'année précédente, l'Assemblée nationale lance une consultation citoyenne sur la parentalité jusqu'au 4 décembre prochain. Nina Droff, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un questionnaire qui doit permettre de recueillir des données dans le cadre de la mission d'information de l'Assemblée sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité.
Oui, cette enquête d'une trentaine de questions est accessible en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Elle est ouverte à tous, parents ou non. Les questions portent sur différents aspects de la parentalité. Voulez-vous des enfants ou non? Quel est l'âge idéal pour en avoir? Quels sont les potentiels freins économiques, psychologiques ou sociaux à un projet d'enfant? Et qu'attendent les futurs parents en termes de politique publique, d'accompagnement social ou médical? Le but de cette enquête est de mieux comprendre les expériences et les besoins des Français en matière de parentalité, comme l'explique Constance de Pellichy, député chargé de la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité.
L'idée, c'est de pouvoir, à l'issue de nos travaux d'audition, formuler un certain nombre de recommandations qui pourraient permettre aux Français de pouvoir mieux réaliser un projet de famille et un projet d'enfant. L'objectif n'est pas du tout d'aller générer des injonctions pour faire plus de bébés, pour aller soutenir notre modèle social, mais plutôt de voir quels peuvent être les freins qu'on peut facilement lever et qui vont permettre la réalisation de ce projet.
Au-delà des freins à lever, cette consultation s'intéresse aussi au non-désir d'enfant. L'objectif est de savoir s'il s'agit d'une tendance qui se confirme afin de pouvoir l'anticiper si c'est le cas. Les résultats de cette enquête et les recommandations de la mission seront publiés en janvier prochain.
Nina Droff. C'est un nouvel épisode dans l'interminable affaire du petit Grégory. La mise en examen d'une grand-tante du petit garçon tué à l'âge de 4 ans il y a 41 ans à L'Épanche-sur-Vologne dans les Vosges. Catherine Jacob, 81 ans, est soupçonnée d'être l'un des corbeaux de l'affaire. Elle a été mise en examen ce matin pour association de malfaiteurs au terme d'une heure et demie d'interrogatoire à la cour d'appel de Dijon. Elle est repartie libre. Ses avocats ont aussitôt annoncé leur intention de faire appel. Branle-bas de combat à Londres, la coalition des volontaires discute cet après-midi canons et missiles avec l'Ukraine. Les 26 pays alliés de Kiev, européens pour l'essentiel, sont réunis autour du Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence du président Zelensky qui est allé faire un petit tour chez le roi Charles III avant d'attaquer cette réunion. Au menu, les sacro-saintes armes de longue portée que l'Ukraine réclame pour atteindre la Russie en profondeur et après avoir échoué à convaincre Donald Trump a lâché ses tomahawks il y a une semaine. Le président ukrainien espère cette fois parvenir à décrocher des Storm Shadows britanniques. Laura Kalmus nous appelle de Londres.
C'est une nouvelle étape dans le marathon diplomatique du président ukrainien. Ce matin, Volodymyr Zelensky a été reçu par le roi Charles III à Windsor avant de rejoindre Downing Street où Keir Starmer lui a déroulé le tapis rouge.
Ce que nous avons vu de la part de Poutine, c'est une réticence absolue à s'engager. avec des attaques toujours plus nombreuses contre les civils et les enfants.
Volodymyr Zelensky, lui, a remercié le Royaume-Uni.
Nous sommes reconnaissants à votre pays pour son soutien considérable.
Selon Downing Street, les deux dirigeants ont convenu qu'il fallait aller plus loin dans la fourniture d'armes de longue portée à Kiev pour renforcer sa défense et maintenir la pression sur la Russie. Keir Starmer a aussi salué la décision forte de Donald Trump sur les sanctions visant le pétrole et le gaz russe, y voyant un tournant pour asphyxier l'économie de Moscou. Les deux hommes ont évoqué la situation énergétique de l'Ukraine, comment garder les lumières allumées dans les villes et les villages frappés par les missiles russes alors que l'hiver approche. Cette réunion, coprésidée par Keir Starmer et Emmanuel Macron, cherche à renforcer la position de Kiev face à Moscou au moment où la guerre s'apprête à vivre son quatrième hiver.
Et sur le terrain de la guerre, justement, la Russie continue à grignoter le territoire ukrainien et à revendiquer aujourd'hui la prise de 4 villages de plus dans l'est du pays. C'est l'autre front sur lequel se bat la Russie depuis des années. La natalité en berne dans le pays depuis plus de 30 ans et les politiques publiques n'arrivent pas à enrayer la chute. Le taux de fécondité reste à 1,4 enfants par femme en Russie et la mortalité reste élevée, surtout chez les hommes. Et la guerre, dont le bilan reste secret, n'a pas dû arranger les choses. D'après les estimations de l'ONU, les pays pourraient perdre 15% de sa population avant 2100, soit presque 20 millions d'habitants. Le Kremlin tente donc de redresser la barre, sans grand succès pour l'instant. Explication de Sylvain Tronchel, le correspondant de France Culture à Moscou.
L'an dernier, la Russie a encore perdu pas loin de 200 000 habitants et son solde naturel est négatif de 600 000 sur une population de 143 millions, ça n'est pas rien. Et comme le pouvoir limite actuellement drastiquement l'immigration, pour ne pas diluer l'identité russe, a encore dit hier Vladimir Poutine, il n'y a selon lui qu'une solution.
La famille de 3 enfants ou plus devrait être la norme dans notre pays. Et ici, les valeurs et convictions profondes de chacun sont d'une importance capitale.
Pour tenter d'enrayer le phénomène, depuis plus de 20 ans, le gouvernement russe lance plan sur plan, prévoyant toutes sortes d'avantages fiscaux, monétaires, sociaux pour les familles nombreuses. Mais cela ne fonctionne pas. Hier, de nouvelles mesures ont été annoncées, mais les membres du Conseil de la politique démographique, récemment créé, ont surtout parlé promotion des valeurs traditionnelles et proposé leurs solutions, comme le patron de la télévision publique, Oleg Dobrodeyev.
Mes collègues et moi avons déjà décidé que la famille de 3 personnes serait notre archétype partout. En bref, cela s'applique à la production de séries télévisées, au cinéma et à la publicité.
D'après Vladimir Poutine, les causes de la crise de la natalité en Russie sont à chercher dans les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et dans la crise économique des années 90. Rien qui ne concerne ces années de pouvoir.
Sylvain Tronchel, correspondant de France Culture à Moscou. La Russie qui a annoncé cet après-midi l'arrivée aux États-Unis d'un envoyé spécial économique de Vladimir Poutine. Hier, les États-Unis avait annoncé des sanctions contre 2 géants du secteur des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil. C'est une information exclusive. France Culture, des Français participent aux côtés des Américains au Centre de coordination civile et militaire, le CMCC, installé à une trentaine de kilomètres de Gaza pour planifier et organiser l'après-guerre. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, c'est donc vous qui nous révélez cette information.
Oui, il s'agit de 3 militaires. Confirmation cet après-midi de l'état-major des armées, 3 gradés qui sont actuellement déployés aux côtés des 200 soldats américains au centre de coordination dans la ville israélienne de Kiryat Gat. C'est à une trentaine de kilomètres, vous l'avez dit, de Gaza. Selon une source diplomatique européenne, ils sont arrivés très récemment et n'ont pas encore de fonction précise. Ils rejoignent des équipes britanniques et canadiennes. Le centre de coordination n'a qu'une semaine et c'est un véritable chantier. Mais la présence française que nous vous révélons à un double objectif. D'abord, s'associer à l'initiative américaine et puis se positionner pour participer d'une manière ou d'une autre à la force de stabilisation internationale à Gaza, à deux conditions, selon une autre source diplomatique, qu'elle exerce sa mission dans le cadre d'un mandat de l'ONU et qu'il n'y ait pas de troupes françaises au sol.
Vous l'avez dit Thibault, ce centre de coordination civilo-militaire est en chantier. Il y a cependant des pistes de réflexion bien avancées et vous en savez un peu plus sur son fonctionnement. C'est un échange entre deux acteurs concernés, un document confidentiel que vous avez pu consulter.
Deux informations à retenir dans les 11 points de ce document. On apprend d'abord que le QG de cette force de stabilisation devrait être installé à Rafah, au sud de l'enclave, d'ici 2 ou 3 semaines. La participation de soldats azerbaïdjanais au sol est évoquée, mais pas confirmée. Deuxième enseignement, le corridor humanitaire via la Jordanie a été renforcé avec l'installation d'outils de contrôle de marchandises et l'arrivée de personnel américain supplémentaire en provenance du Koweït.
Thibault Lefebvre, à Jérusalem. Par ailleurs, des mouvements palestiniens réunis au Caire, dont le Hamas, se sont mis d'accord cet après-midi pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Quand Ronald Reagan vient jouer les troubles faits dans les rapports entre les États-Unis et le Canada, 21 ans après sa mort, le président américain apparaît dans une campagne publicitaire canadienne contre la hausse des droits de douane. Ce clip vidéo diffusée par la province canadienne de l'Ontario reprend des extraits du discours du défunt président et il a provoqué une colère noire de Donald Trump qui a aussitôt décidé d'interrompre les négociations commerciales entre les deux pays alors même qu'elles étaient sur le point d'aboutir. Le récit de notre envoyé spécial aux États-Unis, Isabelle Labéry.
Pour une fois, l'intelligence artificielle n'y est pour rien. C'est le vrai discours de Reagan. Nous sommes en 1987. L'icône du conservatisme américain explique pourquoi il impose à contre-cœur des droits de douane au Japon. Les auteurs du spot de 2025 ont juste rajouté un peu de musique et des images.
Quand quelqu'un dit « imposons des droits de douane sur les importations étrangères », on a l'impression qu'il agit par patriotisme. Et parfois, pendant un court instant, ça fonctionne. Mais à long terme, ces barrières commerciales nuisent à tous les Américains, travailleurs et consommateurs. Des droits de douane élevés entraînent inévitablement des représailles et le déclenchement de guerres commerciales féroces. Et des millions de personnes perdent leur emploi. And
millions of people lose their jobs. La Fondation Reagan juge les propos déformés. Donald Trump parle de fake news, mais le discours colle à la réalité de 2025. Au Canada, les tarifs douaniers frappent de plein fouet les secteurs de l'aluminium, de l'acier, de l'automobile et du bois. Le Premier ministre Mark Carney avait lui-même annoncé quelques heures avant le coup de chaud de Donald Trump que son pays se donnait 10 ans pour multiplier par 2 ses exportations en dehors du marché américain.
Isabelle Labéry. TikTok et Meta dans le collimateur de la Commission européenne. Bruxelles reproche aux deux géants des réseaux sociaux de compliquer la vie des chercheurs qui veulent en explorer les entrailles. La législation européenne, le Digital Service Act, les oblige pourtant à jouer la carte de la transparence, alors qu'en réalité les procédures d'accès aux données sont trop longues et décourageantes. De quoi s'arracher les cheveux pour les chercheurs indépendants qui veulent travailler sur des sujets d'intérêt public, comme par exemple la protection des mineurs en ligne, la désinformation ou les méfaits des réseaux sur la santé mentale. TikTok et Meta risquent des amendes qui pourraient atteindre jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial annuel, à moins qu'ils ne proposent à l'UE des solutions pour améliorer les choses. 14 migrants ont trouvé la mort en mer Égée au large de la station balnéaire de Bodrum, au sud-ouest de la Turquie, tout près des îles grecques. Leur embarcation a coulé après avoir pris l'eau. Deux passagers ont pu échapper à la mort, dont un Afghan qui est parvenu à gagner la terre ferme après avoir nagé durant 6 heures. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année, près de 1400 migrants ont disparu ou ont été repêchés morts en Méditerranée. C'est une tempête tropicale qui est en train de se transformer en ouragan majeur, prévient le Centre national des ouragans américains. Mélissa sévit en ce moment au large de la Jamaïque, d'Haïti et de la République dominicaine et devrait atteindre sa pleine puissance dimanche avec de fortes pluies qui pourraient provoquer des inondations éclairs qualifiées de catastrophiques et des glissements de terrain. La météo dans l'Hexagone, un peu de calme après la tempête, mais de la grisaille. Demain matin, le ciel sera encombré de nuages avec des pluies faibles à partir du milieu de journée et des vents faibles à modérés. Côté température de 10 degrés le matin à 14 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.